J'ai commencé avec le travail de thèse hein, dans les années 80, à une époque où travailler sur les animaux était vraiment très très réduit. Il y avait quelques travaux du côté des sociologues, des ethnologues, des archéozoologues, et puis surtout Robert Delaure, médiéviste, commençait à lancer l'affaire. Et moi, j'ai pensé à ce sujet de thèse, je dis toujours en plaisanterie, je l'ai choisi sous un commandement divin, puisque ça m'est arrivé un 15 août, et j'étais dans mon hamac, et je cherchais un sujet de thèse, et tout d'un coup, je me suis dit, mais pourquoi ne pas travailler sur les animaux? Et je ne connaissais pas le livre de Delaure, je sortais du pachetage de l'agrégation, et c'est ensuite que je l'ai découvert. Mais donc ça a commencé comme ça, un peu une thèse pour plaisir, justement. Hein, on en parlait à midi. Ce sont peut-être les meilleures thèses, hein, finalement, au moins travailler pour son plaisir, qui me permettaient de lier deux passions, finalement, l'histoire et les animaux. Donc j'ai commencé dans une approche qui, à l'époque, était nouvelle, qu'on peut dire maintenant classique. Ça n'a rien de déshonorant, évidemment. Hein, en faisant ce que j'appelle maintenant une histoire humaine des animaux, c'est-à-dire comment les hommes se représentent, utilisent, pratiquent les animaux. Et j'avais choisi, c'est Jean-Louis Flandrin, qui m'avait, lancé sur le sujet, j'avais choisi donc de travailler sur l'Église, le clergé. C'est lui qui m'avait dit que ça serait un sujet intéressant, dans tout ce qu'on pouvait faire à l'époque sur les animaux, puisqu'il n'y avait quasiment rien. Et donc j'ai consacré ma thèse à l'Église et l'animal en France, 17e, 20e siècle, et qui m'avait permis de brasser large, aussi bien époque moderne que contemporaine. À l'époque, j'aimais bien les deux périodes et ça m'avait permis de les garder sans trop choisir. Et ensuite, j'ai continué là-dessus, puisque il y avait vraiment, c'était vraiment un océan à défricher. Et après cette thèse, donc, je suis parti avec une collègue sur ce qu'on appelait à l'époque des phénomènes carrefour, c'est-à-dire des phénomènes un peu restreints géographiquement, mais où l'on pouvait voir finalement une société évoluer. Et donc, on a travaillé sur la corrida dans un premier temps. Faire une histoire de la corrida, et c'est une histoire qui ne se voulait pas géographique, très loin des histoires de la corrida faites par les aficionados, et là j'ai rencontré pour la première fois de ma vie la falsification de l'histoire. C'était étonnant de voir les aficionados à quel point, encore maintenant, ils peuvent prendre des libertés avec l'histoire, jusqu'à tronquer les textes, leur faire dire le contraire de ce qu'ils disent, etc., etc. C'était assez passionnant pour ça. Et donc un sujet donc restreint, les arènes, des taureaux, des hommes, et derrière ça, on a toute une histoire politique, sociale, culturelle à l'œuvre, à la fois au niveau français, mais aussi espagnol. Et puis le deuxième phénomène Carrefour, ça avait été les zoos, un livre qu'on a publié en 98, l'histoire des jardins zoologiques, là aussi un lieu très restreint, mais où finalement se conjuguent et se croisent tous les phénomènes de société, du regard sur les autres, du regard sur la nature, de la violence, de l'enfermement, etc., etc. Et un sujet qui était très peu travaillé à l'époque, il n'y avait quasiment rien, si ce n'est de la part, là aussi, des spécialistes des zoos, des directeurs de zoos, alors avec une histoire beaucoup moins géographique que celle des aficionados. Ils n'avaient pas rencontré la même trituration, si on peut dire, de l'histoire et des documents, mais il n'y avait pas grand-chose, et ensuite c'est devenu un sujet universitaire, notamment dans les pays anglo-saxons, dans les années 2000, assez développé ensuite. Voilà, et donc j'ai fait une série de livres comme ça jusqu'aux années 2007 à peu près, hein, dont un livre sur des planches d'un dictionnaire d'histoire naturelle, le dictionnaire d'histoire naturelle de Charles d'Orbigny, qui est un dictionnaire paru dans les années 1841-47, qui a été sans doute le dictionnaire de vulgarisation le plus célèbre du 19e siècle, avec de très belles planches en couleur. C'était parmi les premières planches en couleur en histoire naturelle Cuvier, Buffon, c'était des planches évidemment en noir et blanc. Et là, il y avait une espèce de véritable révolution. Et l'idée, donc, c'était de travailler sur ces planches et de voir le lien entre les planches et le texte. Et dans les années donc 2005-2007 qu'au bout d'un moment, j'avais déjà pas mal travaillé sur cet aspect-là de l'histoire des animaux, notamment en faisant, je pense que c'est ça qui a précipité les choses, en faisant un livre de synthèse pour Odile Jacob, qui m'a coûté beaucoup, beaucoup de travail pour un rendement assez faible, parce qu'à l'époque, l'histoire des animaux intéressait encore peu. Le livre a moyennement marché. C'est un livre qui est paru en 2003 qui s'appelait « L'homme créa l'animal ». Le titre n'est pas très bon, qui m'a été imposé. Mais ça m'avait demandé un très gros travail de synthèse, puisque c'était une espèce d'histoire de la relation entre les hommes et les animaux de la préhistoire à nos jours, hein, en 400 pages, de la littérature à la chasse, etc., etc. Donc ça m'avait demandé de lire énormément. Et je pense que c'est ça qui m'a permis de mûrir, entre guillemets, hein, là aussi. Ce que j'avais fait avant n'était pas péjoratif et n'était pas à sous-évaluer, mais ce qui m'a permis de passer à une deuxième étape, c'est-à-dire que je me suis dit finalement, mais on commençait à connaître beaucoup de choses, on en connaît encore bien plus maintenant parce que la production a encore augmenté, mais on commençait à savoir beaucoup de choses sur les humains, ce que les humains pensaient des animaux, ce qu'ils faisaient avec les animaux, etc. Mais finalement, on ne connaissait rien des hommes. Et le dernier déclic, là aussi, ce n'est pas du tout pour le déprécier, hein, était la parution d'ouvrage de Michel Pastoureau, « L'ours » en 2007, qui est un très beau livre. Hein. Je ne veux absolument pas le déprécier, mais qui est une histoire culturelle de l'ours. C'est comment les hommes se sont représentés l'ours et comment il y a eu une histoire de cette représentation. Et à la fin, finalement, pour un livre marqué « L'ours », bah, on ne sait rien sur l'histoire de l'ours lui-même. Et donc là, je me suis dit, mais il y a un problème, parce qu'on travaille sur les relations entre les hommes et les animaux. On commence à savoir beaucoup de choses sur les hommes, mais on ne sait à peu près rien, ou pas grand-chose, sur les animaux. Et je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. On est en train de déséquilibrer le couple. Et la fréquentation des textes me faisait voir aussi que ben, finalement, les gens de telle ou telle époque, des mineurs par exemple, avec leurs chevaux, etc., et ben, ils étaient plus ou moins des paysans, évidemment, avec leurs vaches, ils étaient évidemment plus ou moins obligés de tenir compte de leurs animaux pour que ces animaux travaillent correctement. Tenir compte si les contemporains le font, a fortiori, il faut que les historiens le fassent. Donc ça m'a amené à cette deuxième phase, c'est sur celle-ci que je vais insister. Deuxième phase, donc, qui est la travailler à une histoire animale des animaux, pas une histoire humaine des animaux. Hein. Encore une fois, l'histoire humaine des animaux est tout à fait nécessaire et ça n'a rien de péjoratif dans mon propos. Et j'en ai suffisamment fait pour ne pas le déprécier. Mais donc l'idée, c'était de passer du côté des animaux pour voir qu'est-ce qui se passe dans les phénomènes historiques que l'on raconte, dans cette histoire des relations entre les hommes et les animaux. Et donc j'ai écrit à ce propos donc deux ouvrages. Le premier donc a été un peu lancé le propos, c'est « Le point de vue animal, une autre version de l'histoire », qui est un ouvrage un peu méthodologique. Il y a une grosse première partie sur comment faire, alors je vous en parlerai après, pour faire cette histoire animale, comment passer du côté des animaux. Et puis les autres parties sont consacrées à des cas concrets pour montrer justement ce qu'on peut atteindre. Hein, j'avais choisi cinq cas concrets, les vaches laitières, entre la spécialisation qu'on voit apparaître dans les campagnes, notamment j'avais été frappé par un travail d'un professeur de l'école vétérinaire de Lyon, Charles Fursy-Grogny. Voilà, Charles Fursy-Grogny. Un personnage tout à fait intéressant. J'essaye désespérément de mettre un étudiant là sur ce, pour en faire une thèse ou au moins un mémoire. Je n'y arrive encore pas. Personnage remarquable qui, notamment dans les années 1820, se promène dans les monts du Lyonnais au moment même où les paysans spécialisent leurs troupeaux bovins, c'est-à-dire qu'ils font distinction entre vaches à viande et vaches laitières. Et il voit très bien ce qui se passe du côté des vaches laitières, notamment tout le problème pour ces vaches, qui étaient des vaches polyvalentes, de devenir spécialisées laitières, et notamment tout le problème avec les veaux, qu'est-ce que ça veut dire aussi dans l'allongement de la lactation, etc. Donc il voyait bien aussi les ruses des paysans, par exemple, pour contourner les ruses ou les violences des paysans, pour contourner la résistance des vaches. Donc j'avais choisi comme ça les vaches laitières de cette époque-là jusqu'à nos jours. Autre exemple, c'était les chevaux de mine, les taureaux de corrida. J'avais travaillé sur la corrida côté humain, je me suis dit ben, pourquoi pas passer de l'autre côté. Les animaux dans la Première Guerre mondiale, et puis je dois en oublier un, le chien de compagnie, le chien de loisir. Entre 19e et 20e siècle, j'ai abandonné l'histoire moderne, considérant qu'il se travaillait maintenant beaucoup de choses et que je n'avais plus à aller chasser sur les terres des confrères qui avaient suffisamment de représentants comme ça en histoire moderne sur l'histoire des animaux. Et puis, donc, dans la foulée, j'ai mis ce deuxième livre, hein, « Bête des tranchées ». Dans la foulée, j'ai repris le cas des animaux en guerre pour là avoir une approche européenne. Dans le cas, le point de vue animal, ce ne sont que des exemples français. Et dans les bêtes des tranchées, donc là, j'ai pris une approche européenne sur le front ouest, modestement, parce que le front ouest, on se heurte évidemment à un problème de langue que personnellement, je ne maîtrise pas. Peut-être que les jeunes, on en parlait là aussi, les jeunes docteurs maintenant maîtrisent ces langues-là. Mais moi, je ne les maîtrise pas, donc je m'étais cantonné au front ouest pour faire du comparatif, pour voir un peu les choses d'une autre manière, et avec des choses très étonnantes, notamment sur les différences nationales dans la manière de se comporter, de traiter les animaux. Et il y a des moments où, entre les manières, par exemple, de transporter à bateau les chevaux d'Amérique du Nord en France ou d'Amérique du Nord en Angleterre, les différences sont telles qu'à des moments, je me pinçais les doigts en me disant « mais on est dans une caricature nationaliste de différence nationale, mais qui était bien là. » Alors, pour ces deux livres, leur point commun, c'était de travailler sur des groupes. Et de voir, c'est finalement l'approche la plus facile, quand on veut rentrer dans une histoire animale des animaux, de prendre comme exemple des phénomènes historiques humains, des phénomènes importants. Première Guerre mondiale, le développement de la famille avec le chien de compagnie, l'industrialisation, la révolution industrielle avec les mines et les chevaux, la révolution agricole, même si bon, le thème révolution doit se prendre entre guillemets, mais la révolution agricole avec les vaches laitières, etc. Donc l'idée, c'était de prendre des phénomènes historiques humains importants et de voir comment les animaux qui ont été enrôlés dans ces phénomènes les ont vécus. Et c'est l'approche la plus simple, la plus facile, qui ne l'est pas forcément quand on débute. J'ai eu beaucoup de mal à l'époque, mais c'est quand même la plus simple avec du recul, parce qu'on a évidemment beaucoup de documents. Et je parlerai après de la question des documents. Et puis, un troisième livre... après les groupes, je me suis dit qu'il fallait travailler sur les individus. Et donc, j'ai fait ce livre qui est paru en 2017, c'est le plus récent, donc c'est « Biographie animale », où j'ai pris une dizaine de cas d'individus, animaux sauvages, animaux domestiques, pour lesquels on a des sources et pour lesquels on peut faire leur biographie de leur côté. Pour beaucoup, on a des biographies, par exemple la girafe de 1827 qui arrive à Marseille et qui va à pied jusqu'à Paris, cette girafe offerte à Charles X. On a trois biographies récentes, enfin trois ouvrages récents depuis les années 70 qui sont parus, mais qui regardent le côté humain, c'est-à-dire comment les hommes ont accueilli cette girafe. Là, l'idée, c'était comment cette girafe a vécu son voyage. ou alors le singe consul que vous avez en couverture, qui a été un animal savant, une vedette du zoo de Manchester à la fin du 19e siècle. On a beaucoup de photos sur lui. Ben, l'idée, c'est la même chose, c'est comment a-t-il vécu cette expérience au zoo de Manchester. Voilà. Alors, tout ça, évidemment, pose la question des documents. Avec quoi travailler pour passer du côté des animaux? Alors, à l'époque, je ne pensais pas, quand je dis à l'époque, c'est-à-dire j'ai commencé ce travail en 2007-2008 pour le point de vue animal, hein, il a été publié en 2012. À l'époque, je ne pensais pas qu'il puisse y avoir autre chose que des documents humains. Maintenant, avec le recul, évidemment, l'avenir est aux documents animaux. Et il peut y en avoir beaucoup. Il suffit d'y penser, mais on n'y pense pas forcément comme ça d'un coup. Hein. Donc, alors, y a déjà des choses depuis très longtemps. Il suffit de penser à l'archéozoologie. Hein. L'archéozoologie apporte plein de documents sur les animaux, la taille, etc., etc. Bon. Je passe. On a aussi beaucoup de documents animaux, entre guillemets, c'est en plein développement depuis une quinzaine d'années, pour les temps actuels, avec toutes les techniques de suivi, les techniques par GPS, etc., etc., qui permettent maintenant de pister des animaux sauvages d'une manière extrêmement fine. Et puis, il y a une troisième source qui est en balbutiement, mais qui, à mon avis, va être la source du XXIe siècle, c'est la génétique, qui va être un véritable livre ouvert sur l'histoire, parce que les généticiens, et là, il faut vraiment pas que les historiens ratent le coche, les généticiens vont nous apprendre énormément de choses sur les animaux qu'ils étudient, hein, jusqu'à pouvoir nous dire que tel animal ou tel animal a changé de région, par exemple, hein, en voyant le changement de son régime alimentaire, etc., etc. Et c'est d'autant plus intéressant que la génétique actuelle se distingue maintenant entre la génétique dure qui s'intéresse au génome et l'épigénétique qui s'intéresse à l'épigénome, puisque on sait maintenant que l'environnement modifie le comportement, hein, intervient sur le comportement. Autrement dit, le génome, c'est comme le clavier du piano. Vous avez, c'est votre génome, mais après, il faut jouer la partition. Et la partition, eh ben, c'est l'épigénétique. Elle se joue en fonction de votre environnement. Hein. Et donc, évidemment, on retrouve là, dans l'épigénome, qui peut se retrouver, qui peut se tracer, etc., on retrouve là, ben, toute la vie de l'individu. Alors pour l'instant c'est balbutiant, mais ça va être de véritables livres ouverts pour des animaux pour lesquels on n'a strictement aucun document. Hein. Et alors le pire, si je puis dire, c'est que va se développer ce que les généticiens appellent l'ADN sédimentaire, c'est-à-dire on n'aura même plus besoin d'ossements, hein, puisque les cadavres qui se décomposent totalement, qui ne laissent pas d'ossements, ben, ils laissent quand même des fragments d'ADN dans le sol. Donc, il suffira de creuser dans des endroits précis pour aller chercher l'ADN sédimentaire, l'ADN qui est dans le sol, et retrouver de l'ADN d'animaux pour là, alors là, on a, pour lesquels on n'a strictement plus rien, puisque là, il n'y a même plus d'ossements. Hein. Donc, c'est un véritable océan qui s'annonce à nous. Il faut vraiment que les historiens travaillent avec eux, avec les généticiens. Ils sont demandeurs, d'ailleurs, et notamment les épigénéticiens. Mais bon, pour l'instant, c'est balbutiant. Donc je reviens à mes documents. À l'époque, je ne pensais qu'aux documents historiques, c'est-à-dire les documents produits par des humains. Alors il y en a beaucoup de ces documents produits par des humains. Hein. Il suffit de prendre l'exemple de la Première Guerre mondiale, hein, c'est ce que je vous ai mis. Eh bien, on a plein de documents. Alors pas tellement les archives militaires, il n'y a pas grand-chose dans les archives militaires à Vincennes, parce que ça a été jeté, manifestement. Il y avait des registres de tenue des chiens. Ben, ces registres, on le sait par les témoignages de l'époque, ces registres ont disparu. Manifestement, je soupçonne les conservateurs des archives de Vincennes de les avoir mises à la poubelle parce que il n'y avait que des renseignements sur les chiens et que pour eux, c'était pas un document historique. Ça ne concernait pas les humains. Et donc, on n'a plus rien là-dessus. Il n'y a pas grand-chose sur les pigeons, il n'y a pas grand-chose sur les chevaux. Et en fait, il faut aller voir les témoignages des combattants de l'époque. Hein. C'est pour ça que je vous ai mis Maurice Genevoix, ceux de 14. Je l'ai mis celui-ci parce qu'il y a énormément de renseignements sur les animaux. Et là, on bute sur un phénomène, mais c'est vrai pour tous les témoignages, c'est que d'un combattant à l'autre, l'intérêt pour les animaux n'est pas le même. Il y a des témoignages pour lesquels il n'y a rien, et puis d'autres, au contraire, il y a énormément de choses. Hein, j'ai trouvé un témoignage d'artilleur, un artilleur pourtant qui vit et qui vivait avec les chevaux, qui, à un certain moment, utilise l'expression « les canons arrivent au galop ». Pour évacuer les chevaux, il n'y a pas plus belle expression, évidemment. Et il ne dit rien des chevaux dans ses mémoires, rien. Donc là, document totalement inutilisable. Et puis, il y en a d'autres qui, au contraire, sont extrêmement intéressants. Et puis, vous avez d'autres types de documents pour la guerre. Vous voyez, par exemple, le deuxième document, c'est un vétérinaire anglais qui, dès 1918, fait ce rapport sur l'utilisation des chevaux dans l'armée anglaise. Et on apprend plein de choses sur les maladies, les blessures, les itinéraires, etc., etc. Donc, des documents, il y en a énormément. Alors, ces documents, il faut les prendre avec recul. Et notamment, il faut pour cela les croiser avec l'éthologie. Alors, je vous en parlerai après. Mais on ne peut pas, évidemment, prendre ces documents comme ça. Un, il faut prendre du recul. Et puis, deux, il faut pouvoir les analyser, c'est-à-dire aller chercher dans ces documents ce qui concerne le vécu animal. Et souvent, c'est 3 mots sur 10 pages. Hein. Ou alors, il faut apprendre à inverser, c'est-à-dire le cavalier qui va nous raconter sa marche, qui va nous raconter son épuisement, etc., etc., ben, essayer d'en déduire qu'est-ce que ça veut dire pour le cheval. Hein, si le cavalier a subi tel aspect, ben pour le cheval, alors ça veut dire qu'il faut connaître un peu l'éthologie équine, pardon, mais ça veut dire telle ou telle conséquence. Alors, ces documents, on en trouve pour plein d'exemples. Hein. Je vous ai mis ce deuxième exemple, donc la girafe, pour les individus. Eh bien, on a des documents qui permettent de savoir une partie de ce qui s'est passé. Là aussi, mais je vais le dire, c'est comme tous les documents, on apprend sans doute que 20-30% de ce que la girafe a vécu, mais finalement, c'est mieux que rien. Et on trouve des documents intéressants. Je vous ai mis celui-ci là à droite. C'est un document d'un naturaliste, Sals, naturaliste marseillais, à qui le Muséum de Paris demande de faire un rapport dès que la girafe arrive à Marseille, parce qu'on a tellement peur qu'elle meure en route. Et les 2 autres girafes qui ont été envoyées, l'une à Vienne, l'une à Londres, en même temps, sont mortes en route. Donc on pouvait craindre la mort à l'époque. On lui demande donc de faire un rapport pour qu'il puisse au moins observer cette girafe vivante avant qu'elle ne meure. Et il fait un rapport extrêmement intéressant, dont on peut tirer plein de choses. Alors, c'est limité sur le séjour de la girafe à Marseille, mais c'est vraiment tout à fait intéressant. On trouve aussi des lettres du préfet de Marseille, enfin des Bouches-du-Rhône, qui suit ensuite le voyage. On trouve la correspondance de Geoffroy Saint-Hilaire, qui est allé chercher la girafe pour la ramener à Paris. Donc on trouve toute une série de documents qui permettent, là aussi, de voir un petit peu ce qui se passe du côté de l'animal. Et alors, comme je vous le disais, bien, ces documents, il faut les croiser. Hein, il faut les croiser avec les sciences de la nature, avec l'éthologie, la physiologie, la génétique, la vétérinaire. Et par exemple, pour la girafe, bah, utiliser la littérature sur la girafe, notamment. Il n'y a pas grand-chose sur la girafe. Il y a une spécialiste mondiale, Anne Dagg, qui a fait ce livre. On se rend compte, finalement, quand on veut passer du côté des animaux, on est presque plus limité par le savoir éthologique restreint sur beaucoup d'espèces que par les documents. Hein, je fais un livre sur les chats actuellement. C'est étonnant de voir à quel point l'éthologie des chats est très en retard par rapport à celle des chiens, c'est étonnant. Hein, il y a plein de manques en matière d'éthologie des chats. Et alors, je vous ai mis à côté les chiens, parce que c'est avec l'éthologie des primates, ce sont les 2 éthologies en pointe où l'on apprend, on sait maintenant déjà pas mal de choses. Alors, je dis bien croiser et non pas contrôler. Hein, pourquoi ? Parce que il ne faut surtout pas essayer de contrôler les dires de telle ou telle époque, hein, de Sals par exemple sur la girafe, avec ce que dit Anne Dagg actuellement. Tout simplement parce que ce ne sont pas les mêmes girafes et qu'il faut tenir compte des changements de comportement, c'est ce que j'essaye de montrer avec les chats, et aussi parce que les contemporains peuvent voir des choses que nous, nous ne voyons pas, et inversement, nous, nous pouvons voir des choses que les contemporains ne voient pas. Hein. C'est vrai, par exemple, pour les animaux de guerre. On ne va pas réinventer une guerre pour voir comment se comportaient les chevaux ou les chiens dans les tranchées, évidemment. Donc les gens de l'époque voyaient des choses que nous, nous ne pouvons plus voir. Donc on ne peut pas aller dire ils racontent des bêtises ou non. Hein. En fait, il faut croiser, et en croisant, on bénéficie des apports de chacun, et puis il y a des et on voit relativement bien lorsque le témoignage fait une erreur, ou lorsque le témoignage voit bien les choses. Au bout d'un moment, ça apparaît d'une manière relativement sensible. Évidemment, on est dépendant de cette littérature éthologique, donc on est dépendant de son niveau. On est aussi dépendant de la manière dont se fait cette éthologie. Il y a des éthologues qui sont plus ou moins naturalistes. Par exemple, sur les chats, il y a un ouvrage de référence sur les chats, un ouvrage collectif anglais. C'est intéressant de voir comment, d'un chapitre à l'autre, écrit par des auteurs différents, il y en a qui sont très réducteurs naturalistes, c'est-à-dire que le chat a toujours été comme cela, quelles que soient les époques, les environnements, etc. Et puis d'autres qui commencent à réaliser que le chat de famille, pour leur époque, pour notre époque, ils réalisent que le chat de famille, c'est pas le chat de laboratoire, que le chat de ferme, c'est pas le chat de famille, etc., etc., que les comportements changent, qu'il y a une plasticité comportementale du chat. Mais cette plasticité comportementale, on la trouve aussi au niveau historique. Elle n'est pas simplement au niveau spatial, comme les éthologues sont en train de le découvrir. Alors, que faire avec tout ça? Eh bien, il y a plusieurs possibilités que j'ai essayé de développer dans les différents livres. Hein, le premier but, c'est restituer des vécus. C'était le but initial. Et restituer, par exemple, j'ai repris là deux exemples de la guerre, hein, le cas des chevaux, par exemple, pour lesquels on a beaucoup de documents, écrits, des films, des cartes postales, etc., etc. Et on arrive à relativement bien restituer le vécu de ces chevaux. Là aussi, peut-être à 30-40%, mais c'est toujours mieux que rien. Est-ce qu'on restitue le passé des paysans du Moyen-Âge à 100%? Évidemment non, hein. Donc il faut rester en tout modeste. Et on arrive à voir des choses extrêmement intéressantes. Par exemple, les morts subites des chevaux, des mulets. Là. Pourquoi? Ben parce qu'ils n'extériorisent pas trop l'épuisement, et donc ils vont jusqu'au bout, et les hommes ne voient pas cet épuisement. Donc ces chevaux, ces mulets vont jusqu'au bout, et lorsqu'ils sont épuisés, bah, ils s'écroulent par arrêt cardiaque, ou alors ils ne veulent plus marcher. Les hommes de l'époque le savent, lorsqu'un cheval ne veut plus marcher, il ne marchera plus, il n'y a plus qu'à le dételer de l'attelage, le mettre sur un côté, il va mourir sur place. Hein? Alors les gens de l'époque le voient bien, mais ils ne savent pas l'expliquer. Nous, maintenant, on sait expliquer ce qui se passe pour arriver à cette situation-là. On a, deuxième exemple, c'est le cas des chiens mitrailleurs belges, hein, cette expérience tentée en 14 pour tirer des mitrailleuses lourdes en première ligne, pas des mitrailleuses défensives, mais des mitrailleuses offensives. Donc on a l'idée en Belgique d'atteler des chiens, mais les promoteurs de ces attelages sont des membres de la bourgeoisie qui disent bien dans leur écrit qu'il va falloir faire attention à ces chiens, il va falloir les accompagner. Autrement, ça va être dur pour eux. Le problème, c'est qu'évidemment, les soldats qui les accompagnent, ce sont des paysans ou des ouvriers qui n'ont pas à l'époque le même rapport aux chiens que peuvent l'avoir les bourgeois de l'époque. Ces ouvriers, ces paysans, ils ne sont pas dans le modèle du chien de compagnie. Hein, donc, aller caresser le chien, s'en occuper, etc., c'est pas leur monde. Et on voit, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, justement, les chiens qui ne sont pas épaulés, entre guillemets, vont beaucoup fatiguer, vont devenir agressifs, vont être agressifs avec les hommes, avec les chiens. Et on a des témoignages, j'ai trouvé des témoignages qui racontent comment ces brigades, lorsqu'elles sont précipitées contre l'armée allemande pour l'arrêter, lorsque l'armée allemande envahit la Belgique, ces brigades arrivent avec les chiens de nuit, avec les chiens qui aboient, parce qu'ils sont épuisés, ils sont agressifs, donc ils aboient, évidemment, pour les Allemands, c'est pain béni, ils estiment la distance à peu près, et ils font tirer dessus au canon toute la nuit, le lendemain, il n'y a plus de brigade, tout le monde est mort. Hein. C'est l'échec total. Et on voit bien là, pour comprendre cet échec total, il faut être des deux côtés. Il faut comprendre ce qui se passe du côté des ouvriers, des paysans, des soldats du rang, puis il faut comprendre ce qui se passe du côté des chiens. Alors ça, donc, c'est le premier but, restituer des vécus. Qu'est-ce qui se passe du côté des animaux là, dans un phénomène historique donné? Et puis on peut aller plus loin, c'est ce que j'ai essayé de faire avec les individus. On peut, par exemple, appréhender des époques animales. Il y a des époques animales comme il y a des époques humaines. Et voilà, j'avais pris l'exemple des chimpanzés en Occident, parce que pour eux, on a des documents humains. Ces chimpanzés, donc, importés en Occident, avec deux exemples, donc Consul et Méchy, Consul au zoo de Manchester et Méchy dans une famille américaine des années 20-30, hein, qu'on essaye de faire passer comme enfant de la famille. Et là, il représente toute cette période 1850-1950, où l'on veut en Occident humaniser les chimpanzés. Hein, comme on veut occidentaliser les populations africaines, eh bien, on veut humaniser les chimpanzés. Il y a d'ailleurs un Français dont je suis en train d'oublier le nom, qui publie un ouvrage dans les années 1890 sur le chimpanzé futur domestique, de maison. Hein, parce qu'avec la crise du personnel, ma pauvre dame, les Bretonnes, c'est plus ce que c'est. Donc, domestiquons et les chimpanzés et on remplacera comme ça les bonnes et les serviteurs. Donc il y a une espèce de volonté d'humaniser, mais une volonté consciente, hein, un espèce de programme qu'on retrouve tout à fait ici avec Consul qui est habillé à l'humaine, etc., qui ont fait prendre le thé, manger, qui va d'ailleurs, il y prend plaisir parce qu'il comprend très bien que c'est un moyen pour lui d'obtenir un degré de liberté. Qui va au restaurant, qui va au pub, il fume la pipe, il boit, il feuillette le journal à l'envers avec en même temps que les lecteurs, etc. Et on voit qu'il participe parce que ça lui évite évidemment de se morfondre dans sa cage. Hein. Alors ce sont des animaux exceptionnels. Hein. Consul, il faut penser en même temps Consul aux 80% d'animaux qui meurent en arrivant dans les zoos au bout d'un an. Après l'arrivée. Hein, au bout d'un an d'arrivée, 80% des arrivants sont morts. Hein. Lui, c'est un phénomène exceptionnel, mais il n'empêche que ça existait. Et vous avez la même chose avec Méchy, donc, que l'on essaye d'intégrer dans une famille. Vous voyez, on lui apprend à faire du tricycle. Elle va au travail, au muséum avec Henri Ravenne. Elle mange à la cantine, sur une chaise d'enfant, etc., etc. Et c'est devenu une vedette nationale dans les années 30. Et cette volonté d'humanisation, elle disparaît après les années 1950. Hein, comme on ne veut plus, on se garde de vouloir à tout prix occidentaliser les populations des autres continents, eh bien, on abandonne cette idée-là. Autre exemple possible, c'est l'histoire d'une espèce. Alors ça, je ne l'ai pas encore développé, ça sera à faire, évidemment. Une espèce domestique ou sauvage, j'aurai à faire, évidemment, le cheval. Les généticiens travaillent maintenant beaucoup sur le cheval. Le cheval, le porc, le chien, le chat, il y aurait évidemment à faire ces histoires-là de leur côté. Ça suppose de penser les générations. Voilà un autre aspect que j'ai essayé de développer dans les biographies animales. Penser les générations, c'est-à-dire montrer que le comportement des animaux change avec le temps, ou plutôt avec les changements d'environnement qu'on leur propose. Et dans les biographies animales, là, j'avais pris 4 chiens étalés dans le temps. Les premiers, les plus anciens, c'est Bummer et Lazarus, dont vous avez la gravure à gauche pour vous, oui, pour moi aussi d'ailleurs, et qui sont des chiens errants à San Francisco. au milieu du 19e siècle, que l'on connaît parce qu'ils sont devenus les mascottes de la presse de San Francisco, qui à l'époque n'avait pas beaucoup de nouvelles à raconter, puisque les nouvelles n'arrivaient que par bateau tous les 15 jours ou tous les mois de l'Europe ou de l'autre côté des États-Unis. Et donc, il fallait nourrir la presse avec des nouvelles locales. Donc, on avait transformé ces deux animaux en mascottes. Et on a une cinquantaine d'articles de journaux qui permettent de voir comment ces animaux se sont insérés. Et on retrouve tout à fait, il y a des liens très proches avec les habitudes des chiens errants. Donc, ça permet finalement de montrer des chiens errants au milieu du 19e siècle. Or, les chiens errants, ce sont les chiens les plus nombreux en Occident à cette époque-là. Ce n'est pas le chien de compagnie, ce n'est même pas le chien de travail, c'est le chien errant, le chien le plus nombreux. Dans les villes, ils sont archi majoritaires. Et puis ensuite, j'ai pris le chien évoqué par Alexandre Dumas, Pritchard, puis un chien évoqué par Thomas Mann en 1919, son chien Beauchan. Pour finir avec le chien que vous avez là, on est là dans les années 50, début des années 60, c'est Douchka, évoqué par Colette Audry. Colette Audry, qui est maintenant oubliée, qui était un peu écrivain, qui est une amie de Sartre et de Simone de Beauvoir. Et là, on est alors là carrément dans le chien de compagnie, tel qu'il va se développer dans la seconde moitié du XXe siècle. À 90%, le chien occidental maintenant, c'est un chien de compagnie. Et donc, ces quatre générations m'ont permis de montrer à quel point les comportements pouvaient être différents. Alors, c'est pas mécanique, c'est pas quatre générations qui illustrent absolument l'évolution, mais qui montrent à quel point on a des changements de comportement, tout simplement parce que les exigences des humains changent. Et donc, ces animaux s'adaptent à l'environnement que l'on fait. Alors évidemment, penser ces générations, là, c'est beaucoup plus facile pour l'instant avec des animaux domestiques, très proches, les chiens évidemment, pour lesquels on a des témoignages très précis, et notamment pour les chiens, on a des témoignages de biographie. Puisqu'à partir de la fin du XVIIIe siècle, en Angleterre et en France, s'invente ce type littéraire qui est la biographie d'animaux, et qui se développe pour devenir maintenant, on n'en est pas conscient, mais un véritable raz-de-marée. Quand on regarde les répertoires d'édition, ce qui sort en matière de telle personne qui raconte la vie de son chat val, et de son chien, souvent à compte d'auteur, souvent dans des petites maisons d'édition, c'est un véritable raz-de-marée. Et c'est en train de passer maintenant, depuis une quinzaine d'années, sur YouTube, où vous avez plein maintenant de petites vidéos où on vous montre son chien, son chat, faisant des pitreries, etc., etc. Donc il y a là, et ces biographies, elles apportent beaucoup de choses. Alors pas toutes. Là aussi, on se retrouve dans un problème de documents. Il y en a où l'écrivain est à l'affût de son chien ou de son chat, et il donne des informations très intéressantes, et puis il y en a d'autres où on n'apprend rien. Je m'étais précipité sur les livres de Marie Bonaparte. Marie Bonaparte a fait a fait un livre sur son chien, Topsy, histoire d'un amour. Je me suis dit, ça va être génial. Et en fait, elle ne parle que d'elle. Le chien disparu. Le chien lucerne miroir, finalement. Et donc, sans aucun intérêt. Et puis, d'autres livres, par contre, le livre de Colette Audry qui s'appelle « Derrière la baignoire », qui a eu le prix Médicis en 62, je crois, enfin, j'ai oublié la date exacte, est un ouvrage remarquable. Remarquable. Elle fait vraiment œuvre d'éthologue. D'ailleurs, elle le dit à un moment, elle se met à quatre pattes pour essayer de penser comme son chien, de voir comment son chien peut voir, etc., etc. On dirait, je l'appelle un peu la Jane Goodall des chiens. Elle fait un peu ce que fait Jane Goodall à la même époque avec les chimpanzés dans les années 60. Donc on se retrouve avec la même partialité, entre guillemets, des documents, mais là aussi, il faut les croiser avec l'éthologie. Et puis, finalement, ça se sent, si un document est bon ou pas. Je ne sais pas où j'en suis au niveau temps. Vingt minutes? Ah ben j'ai le temps alors. Ah ben. Et alors actuellement, j'en suis là. Je fais un ouvrage sur les chats, où je reprends le cas des chiens, c'est-à-dire je repars sur les générations, mais cette fois-ci, en plus grand nombre, je vais avoir 12, 13 cas de chats, entre début 19e avec le chat Trim, qui est un chat anglais qui vit sur des bateaux, qui fait le tour de l'Australie, c'est le premier chat à faire le tour de l'Australie, avec ses humains évidemment, hein. Avec Matthew Flinders qui commande cette expédition. Et puis toute une série de chats, jusqu'au dernier que vous avez là, Hélène Braun, qui est un livre remarquable parce qu'elle montre, elle décrit très bien ce que j'appelle le phénomène des chats-chiens. C'est-à-dire que nous sommes en train de façonner nos chiens. C'est un phénomène qui vient, on le voit très bien venir historiquement. Il naît en Australie, en Nouvelle-Zélande, il y a une vingtaine d'années, trentaine d'années. Il est passé aux États-Unis et il est en train d'arriver en France, enfin en Europe, hein. Et c'est l'idée d'avoir des chiens, des chats, pardon, qui se comportent comme des chiens. C'est-à-dire qui sollicitent, qui veulent jouer, qui vous suivent, qui vivent de l'anxiété de séparation si vous les lâchez. Alors qu'évidemment, au XIXe siècle, on a inventé un autre modèle de chat de compagnie, hein, le chat indépendant qui est sur son fauteuil, qui fait ce qu'il veut, que vous n'allez pas déranger. Et le maître et le chat sont d'ailleurs bien contents de vivre indépendants l'un de l'autre. C'est comme ça, c'est le chat vanté par Baudelaire, Rimbaud, etc. On en a fait le type naturel du chat, alors qu'en fait c'est un chat construit, hein, totalement. Et là, c'est le chat-chien. Et donc, on a, en fait, avec les documents, on a des types de chats extrêmement différents. Et l'idée, c'est de montrer à quel point ce comportement des chats est déterminé par l'environnement. Hein? Et là, je rejoins l'épigénétique. L'épigénétique nous montre à quel point l'environnement influe sur les parcours individuels. Et l'environnement, au sens large du terme, c'est pas simplement l'environnement physique, mais c'est aussi, par exemple, pour un chien ou un chat, l'environnement humain. Et ça va être aussi l'environnement culturel, entre guillemets, du chat et du chien. Hein, c'est-à-dire, de quelle mère vient-il, de quelle lignée, comment il a été éduqué, etc., etc. Un chat de gouttière n'est pas un chat de compagnie, un chat de compagnie n'est pas un chat de ferme, etc., etc. Hein. Et donc, cet environnement, au sens large du terme, influe évidemment sur les chats. Et on voit très bien comment, par exemple, au XIXe siècle, les gens, les humains qui ont en tête le modèle du chat indépendant de salon, qui passe sa journée sur son canapé à dormir, le persan, le siamois, etc. Comme ils ont ce modèle-là en tête, eh bien, ces humains se comportent d'une certaine manière qui fait que le chat va se comporter comme ils le veulent. À partir du moment où on ne veut pas d'interaction avec son chat, eh bien le chat ne va pas demander d'interaction avec son maître. Il va y avoir une espèce d'osmose, une espèce d'ajustement réciproque, et on le voit bien dans les documents étudiés. Donc là, j'ai travaillé sur Paul Léotot dans son journal qui évoque beaucoup dans les années 1910 les chats de rue. Les chats errants, les chats abandonnés, les chats vagabonds, hein, qui sont des statuts différents, qui ne se comportent pas là non plus de la même manière. J'ai travaillé donc sur Trim, le chat de bateau, sur Alexandre, pas Dumas, non, Théophile Gautier, qui parle de son chien, de son chat Pierrot, etc., etc. Il y a comme ça, toute une série de biographies. Et donc l'idée, là, c'est finalement de ne plus être uniquement sur le côté animal. Hein, c'est-à-dire, je boucle la boucle. C'est-à-dire, l'idée, c'est de montrer qu'on ne peut pas comprendre les choses si on ne tient pas, cette fois-ci, les deux côtés. Et donc, je passe presque autant de temps, alors que je l'avais évité dans le point de vue animal ou dans la biographie, où j'avais mis en arrière-plan le côté humain. Là, le côté humain et le côté animal ne sont pas à égalité, mais disons, deux tiers, un tiers. Hein, parce qu'on a besoin de bien comprendre ce qui se passe du côté humain pour bien comprendre le chat agit. Hein. Et on voit évidemment plein de choses. Avec les mêmes problèmes de documents, alors là, il y a quelque chose de très intéressant. Je prends le chat Théophile Gautier. Théophile Gautier a écrit un livre qui s'appelle « Ménageries intimes », au pluriel. C'est en fait, je pense qu'il a voulu copier le livre un peu antérieur d'Alexandre Dumas, qui s'appelle « Histoire de mes bêtes ». Alexandre Dumas, « Histoire de mes bêtes », je crois que c'est début des années 50, et « Ménagerie intime », c'est autour de 68. Ils se connaissaient très bien, à mon avis, l'un a copié l'autre. Et « Ménagerie intime » a été réédité récemment avec une préface d'une collègue littéraire que je connais très bien, et qui a intitulé sa préface « Chimère de compagnie ». Alors je lui demande sa préface, et elle en conclut que les animaux évoqués par Théophile Gautier n'ont pas existé. La part d'inventivité littéraire est telle que ça n'est pas possible, ces animaux n'ont pas pu exister. Alors j'avais choisi Pierrot, je me dis mince, je suis mal parti, donc j'essaye de creuser, je m'aperçois que Théophile Gautier avait une fille, enfin deux, mais l'une, Judith Gautier, a publié ses mémoires. Je vais voir les mémoires de Judith Gautier, et qu'est-ce que je trouve? Pierrot. Donc Pierrot a bel et bien existé. Et donc là, on se retrouve avec tout le problème des documents, et encore plus quand ce sont des documents littéraires, d'écrivains, c'est le soupçon, évidemment, que la part littéraire l'emporte sur la réalité. Hein, à tel point que des collègues littéraires peuvent aller jusqu'à dire « Mais non, il n'y a plus aucune réalité. » Et en réalité, si, et on trouve très bien Pierrot. Alors, il y a des choses que Théophile Gautier n'évoque pas, évidemment, mais il y a des choses sur lesquelles il est très précis. Il raconte notamment comment son chat vient tous les soirs, monte sur son lit lorsque Théophile Gautier se couche. Le chat vient lui dire au revoir, si on veut. Donc, il met ses deux pattes, une de chaque côté du cou, et il se frotte. Il frotte sa tête de chat contre la tête de Théophile Gautier. Et Théophile Gautier, en trois phrases, raconte très bien où est-ce que le chat se frotte. Eh bien, vous allez voir les traités, les articles d'éthologie actuels qui vous racontent, il y a eu des expériences où on a mis des chats en présence d'une tête, mais une tête uniforme, hein, une boule, pour voir où est-ce que le chat allait se frotter. Et donc on nous raconte, voilà, le chat, il se frotte avec ses bajoux, il va se frotter à tel endroit de la boule, avec le menton à tel endroit, ça correspond exactement à ce que raconte Théophile Gautier. Autrement dit, là, il nous fait bien passer une réalité. On n'est pas du tout dans l'inventivité littéraire. Alors, ce qu'il faut arriver à faire, mais je trouve que c'est ça qui est passionnant, c'est arriver à démanteler la jonction, enfin, la construction incessante, la dynamique incessante entre la réalité et la littérature. Tout n'est pas réel, mais tout n'est pas littérature. Et en fait, comment tout ça s'imbrique? Et ça permet aussi de voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, ou qu'est-ce qui peut être forcé ou pas forcé. Par exemple, actuellement, je travaille sur le chat Miton, évoqué par Marie Dormoy. Marie Dormoy, c'était une des maîtresses de Paul Léoto. Et elle a écrit une petite plaquette d'une trentaine de pages sur son chat Miton, avec de très belles photos de Dila, qui a été la première photographe animalière d'animaux de compagnie dans les années 30, très célèbre à l'époque, qui a été oubliée maintenant. On voit très bien qu'il y a des aspects qu'elle surévalue, et notamment, par exemple, la chasse. Elle consacre 4 pages sur 29 à décrire la chasse au rat par Miton. Et puis à un moment, elle avoue qu'en fait, dans toute sa carrière de chat d'appartement, Miton n'a pu chasser que 2 rats. Donc on voit bien comment elle surévalue, elle survend cet aspect chasse, parce qu'en fait, elle a l'impression qu'il faut que son chat apparaisse comme un chat naturel. Alors qu'en fait, c'est très intéressant, on voit très bien comment son chat d'appartement, qu'elle ne veut pas absolument pas laisser sortir parce qu'elle y tient, donc elle ne le fait pas sortir. Il n'a pas le droit de sortir, lorsqu'elle l'emmène chez Léoto, il est attaché obligatoirement, etc., etc. Eh bien, on voit apparaître un phénomène de dépendance. C'est-à-dire que son chat devient très dépendant à elle, et on voit apparaître des phénomènes que décrivent très bien maintenant les éthologues et les vétérinaires, de comportements entre guillemets déviants, de chats d'appartement qui se mettent, par exemple, à uriner de partout, à faire des dégâts, etc., parce qu'ils ont un stress. Hein, il y a un problème de mal-être. Eh bien, on le voit apparaître, là. Elle ne le voit pas, mais elle le décrit suffisamment bien pour qu'on le voit apparaître. Donc, son chat n'est pas du tout un chat, entre guillemets, naturel, mais elle veut le faire passer pour chat naturel. Donc, elle surévalue des choses et elle en diminue d'autres. Et c'est évidemment à nous de rétablir la chose par des petits indices par-ci, par-là. Hein, notamment, elle raconte comment son chat mange régulièrement des plantes. Bah, quand on va voir la littérature éthologique, manger régulièrement des plantes pour un chat, c'est un indice, paraît-il, de mal-être, hein, d'inconfort. Il sait qu'il y a un problème quelque part. Et on le retrouve... Alors, il y aurait que ça, on dirait, bon, c'est peut-être pas vrai, mais on retrouve d'autres indices qui montrent bien qu'il y a un mal-être, tout simplement parce que ce chat devient très dépendant de sa maîtresse, mais en même temps, sa maîtresse travaille, ce qui est relativement rare pour l'époque. Elle est une grande famille de la bourgeoisie, elle a une auto, elle travaille, elle est rarement à la maison, et donc ce chat, évidemment, a un problème d'anxiété, de séparation. Alors, ce que j'essaye de faire avec ce dernier livre, c'est de croiser trois aspects, faire ce que j'appelle une ethno-histoire animale, c'est-à-dire croiser l'histoire et l'éthologie, je vous ai montré pourquoi, mais rajouter une troisième branche qui est l'ethnologie. L'ethnologie au sens large. Hein, j'ai pris ethnologie parce que ça me permet ensuite de faire un jeu de mots. Ça me permet de croiser éthologie et ethnologie et parler d'ethno-histoire animale avec le N entre guillemets. Hein. Mais derrière ethnologie, il y a aussi la sociologie, l'anthropologie, etc. Et donc l'idée, c'est pourquoi c'est ce qu'on a essayé de commencer d'ailleurs avec l'atelier que j'ai organisé en mars qui s'appelait « Croiser les sciences pour lire les animaux ». Pourquoi ne pas utiliser des sciences humaines, des concepts, des méthodes des sciences humaines pour analyser les animaux? Et on se rend compte qu'il y a des choses qui peuvent être très intéressantes du côté des sciences humaines, de la sociologie, de l'ethnologie, ou de la philosophie même, sur les interactions, sur l'occupation du territoire, etc. Donc la géographie aussi. Des concepts de géographie, des concepts d'acculturation, de transculturation, etc., etc. Pourquoi ne pas les appliquer aux animaux à partir du moment où on sait maintenant qu'ils ont des capacités d'adaptation, une plasticité comportementale qui fait qu'ils ne sont pas uniquement des êtres biologiques. Il y a évidemment la part biologique, mais il y a aussi une part sociale et il y a une part culturelle dans ces animaux-là, culturelle au sens large. Donc l'idée, c'est de croiser ces trois approches. Alors je vous avoue que j'ai beaucoup de mal. Autant j'ai pris l'habitude de croiser histoire et éthologie, autant utiliser la sociologie, l'anthropologie, c'est encore pas facile. Et je peine beaucoup. J'ai aussi d'autres raisons maintenant, mais depuis octobre, je peine beaucoup. Je vais à l'allure phénoménale d'une demi-page par jour. Vous voyez, à peu près, un escargot me doublerait sans problème si on faisait la course. Et alors on peut se faire aider pour cela avec ce que certains ethnologues, anthropologues ou sociologues ont commencé déjà. Je vous ai donné là deux exemples, notamment celui de droite qui est très intéressant, qui s'appelle « Quatre cultures », qui est un ouvrage qui a été écrit en 2003, publié en 2003 par deux sociologues américains qui ont observé un refuge pour chats sur la côte ouest, et qui ont appliqué leur méthode sociologique pour comprendre les relations entre ces chats. Et donc, ils appliquent toute une série de concepts, de méthodes, etc. Et donc, on voit que ça peut très bien s'appliquer. Avec un problème de leur côté, c'est qu'ils veulent se passer des sciences dites de la nature. Hein. Ils accusent l'éthologie d'être trop réductionniste, et donc ils la mettent de côté, à tort, à mon avis. Je ne vois pas comment on peut se passer de physiologie, comment on peut se passer de génétique, d'éthologie, etc. Pour moi, c'est une dimension supplémentaire, alors que on tendance à évacuer tout ce qui est biologique pour ne voir dans les chats que les aspects culturels. et finalement de faire des chats que des êtres sociaux. Ce sont des êtres sociaux, mais ce sont aussi des êtres biologiques comme les humains aussi, hein, tout simplement. Donc il y a un problème de leur côté, il n'empêche que ils amènent des choses intéressantes et ils montrent des choses intéressantes. Vous avez la... Il a été fait la même chose pour les chiens, hein, ou les Sanders, un sociologue aussi, s'est intéressé aux interactions entre hommes et chiens. Et il est parti sur l'idée que, mais qui est en partie critiquable, si les interactions marchent, c'est que derrière, les capacités sont à peu près équivalentes, hein, parce que autrement, elles ne marcheraient pas. En réalité, là, c'est un présupposé très critiquable. Je montre justement avec les chats qu'on peut se retrouver avec des interactions qui marchent et qui, en réalité, sont fondées sur des incompréhensions. Mais elles peuvent quand même marcher. Donc, son préalable n'est pas bon parce que là aussi, ça lui permet d'évacuer tout ce qui est sciences biologiques et de faire que de la sociologie en disant si l'interaction marche, ben, on a les mêmes capacités des deux côtés. Et du coup, ils anthropomorphisent leur chien ou leur chat. Hein, c'est ce qu'on peut leur reprocher. Il n'empêche que c'est quand même très intéressant. Et alors, pour terminer, je ne sais pas s'il me reste encore un petit peu de temps, pour terminer, pour aller plus large, ça suppose deux choses importantes. La première, c'est ce que j'appelle désanthropiser les concepts. Désanthropiser les concepts, on le voit très bien quand on travaille avec l'anthropologie, ou si on veut faire venir les sciences humaines du côté des animaux. Eh bien, il y a un travail de désanthropisation à faire. Alors, du côté de l'éthologie, c'est très intéressant de voir, mais aussi du côté de la vétérinaire, de la physiologie, etc., comment une grande partie des concepts utilisés, c'est en train de changer maintenant, ont longtemps été définis à l'humaine. Tout simplement parce que, depuis 2500 ans, on vit dans une vision des vivants qui est une vision pyramidale. C'est-à-dire où on partirait des animaux les plus rudimentaires en bas, et puis on monterait comme ça, d'étage en étage, avec des animaux de moins en moins nombreux, un peu moins rudimentaires, et puis on aurait tout en haut, évidemment, l'homme, l'animal absolu, avec les capacités absolues. Alors dans ce schéma, évidemment, il devient naturel de définir, par exemple, l'intelligence à l'humaine. De définir les émotions en fonction des humains, de définir le langage en fonction de l'homme. Et puis ensuite, on va voir si les animaux qui sont en dessous ont ces capacités. Et évidemment, la plupart du temps, qu'est-ce qu'on répond? Eh ben, on répond non. Hein, évidemment, à partir du moment où on définit le langage à l'humaine, aller voir s'il y a du langage chez les chiens, c'est se poser, est-ce que les chiens sont des hommes? Hein? Donc en fait, on entropise les concepts, hein, et là on est dans. C'est pour ça que j'ai mis l'homme de Vitruve de Léonard Vinci, hein, c'est cette idée où finalement l'homme est la mesure de toute chose et la mesure du monde. Donc il est tout à fait normal de définir les concepts selon l'homme. Et on retrouve ça, j'étais à un colloque à Toulon il y a 2 mois, 3 mois, sur la personnalité juridique des animaux. Et on voyait très bien comment les juristes qui n'étaient pas d'accord entre eux, ceux qui n'étaient pas d'accord sur cette personnalité juridique des animaux, avaient une définition du droit, une définition des devoirs, par exemple en disant pour avoir un droit, il faut avoir des devoirs, etc., qui était une définition tout à fait humaine. Donc si vous définissez le droit humainement, évidemment, les chiens n'ont pas de droit. Ça va de soi. Hein. Donc on a tout ce problème-là. Du côté des éthologues, mais qui, en fait, ça vient de cette vision du monde qui a été fabriquée par les philosophes grecs antiques. On trouve ça chez Aristote notamment. Ça a été repris par le christianisme, par une version du christianisme, avec les pères de l'Église qui ont repris le néoplatonisme, Thomas d'Aquin qui a repris l'aristotélisme, etc. Et puis ça a infusé dans toute la philosophie et dans toute la science occidentale jusqu'à peu. Hein. Et même l'évolutionnisme n'a pas changé cette pyramide. Cette pyramide, on s'est contenté de lui donner un axe historique. C'est pour ça d'ailleurs que jusqu'à peu, jusqu'aux années 60, on pensait que l'homme dérivait du chimpanzé. Parce qu'on était dans cette vision pyramidale historique. Et c'est comme ça que Jane Goodall, anthropologue, a été envoyée en Afrique étudier les chimpanzés parce qu'on était persuadé qu'on allait étudier l'ancêtre de l'homme. On sait maintenant évidemment que c'est faux. Et donc, ce qu'il faut faire, ben, c'est justement changer d'onde de mesure. Hein, c'est pour ça que j'ai mis ce dessin d'un chien. Hein, c'était la bande-annonce d'un colloque à Strasbourg qui m'a bien plu et que j'ai reprise. Il faut, en fonction des espaces qu'on définit, eh bien, revoir les concepts que l'on va utiliser. Alors, les éthologues commencent à le faire. Et par exemple, ils ont abandonné la définition habituelle de l'intelligence, qui était une définition humaine. Et maintenant, l'intelligence pour les éthologues, c'est quelque chose de beaucoup plus général. C'est la capacité à s'adapter à son environnement. Alors, si vous prenez, donc, voyez, c'est une définition très large. Si vous prenez cette définition très large, eh bien, en fait, vous avez beaucoup d'espèces animales qui sont intelligentes. Évidemment, là, vous n'êtes plus dans une définition humaine. Si vous avez une définition humaine de l'intelligence, il n'y a plus que l'homme qui est intelligent, ça va de soi. Hein? Donc, il faut changer la mesure des concepts. Hein? Et c'est la même chose si l'on veut introduire les sciences humaines du côté des animaux. On en discutait à l'atelier, justement. On a eu une prestation d'un éthologue et d'un sociologue qui se sont intéressés aux chevaux. Et le sociologue nous a dit, il y a un très bon concept chez Goffman qu'il faudrait utiliser, c'est sauver la face. Comment fait-on pour sauver la face dans une scène sociale? Et eux étudiaient une scène sociale entre chevaux. Et donc, ce concept de sauver la face pourrait être intéressant, à condition évidemment de le désanthropiser. Parce que pour un cheval, sauver la face, ça ne veut rien dire. Parce que le cheval ne va pas donner des signes par la face, contrairement à nous. Hein? Il ne va pas rougir, il ne va pas cligner des yeux, etc., etc. Il ne va pas être triste. Nous, on lit instantanément un visage humain. Eh bien, ce n'est pas par le visage que ça se passe chez les chevaux. Donc, il faut désanthropiser le concept et aller voir du côté des chevaux comment adapter ce concept, sauver la face, et ensuite l'utiliser du côté des équins. Et comme ça, on peut s'apercevoir que ça peut être des concepts extrêmement intéressants pour enrichir l'analyse. Alors ça suppose pour ça de changer de conception du monde. Et c'est ce qui est en train de se faire. La conception pyramidale, elle n'a jamais été prouvée. C'est une conception philosophique qui a infusé dans la science occidentale, mais qui n'a jamais été prouvée. Et en fait, la conception scientifique actuelle valable, elle sera peut-être un peu changée, mais pour l'instant, et notamment proposée par les généticiens, vous l'avez donc à droite, c'est le schéma de l'arborescence. C'est un schéma totalement différent. Vous voyez que vous avez, je ne sais pas si vous voyez, on a mis en rouge le parcours humain. Ce parcours, c'est un parcours parmi tant d'autres. Hein, c'est-à-dire qu'à partir au centre, vous avez le dernier ancêtre universel commun, et à partir de ce dernier ancêtre universel commun, les êtres vivants et les animaux en particulier sont partis sur des branches différentes, d'abord en famille, puis ensuite sur des branches individuelles. Alors vous comprenez qu'avec ce schéma-là, définir l'intelligence à l'humaine pour aller étudier d'autres branches animales, ça devient évidemment stupide. Hein, ça peut se comprendre à la rigueur dans le schéma pyramidal où l'homme exprimerait l'intelligence absolue, donc on définit l'intelligence telle qu'elle, et puis on va voir ensuite s'il y a des degrés d'intelligence, mais là ça ne veut plus rien dire. Et donc on voit bien qu'en fait il faut, dans ce schéma-là, il faut monter les concepts en généralité, que ce soit l'intelligence, les émotions, etc., etc., pour ensuite les spécifier espèce par espèce. Parce qu'évidemment, un cheval, c'est pas un chien, c'est pas un chat, etc., etc. Hein? Donc, vous voyez que derrière ce travail, il y a aussi un changement de manière de voir, un changement de représentation du monde, qui est extrêmement important, que les éthologues sont en train de faire, mais souvent sans y penser. Hein? Je termine avec ça. C'est étonnant de voir comment France de Waal, par exemple, tout au long de sa production, on voit bien comment il est parti d'une vision pyramidale, et puis il a bien vu que cette vision pyramidale ne tenait pas avec ses singes. Donc il a essayé de pousser les parois, mais sans penser à cette vision pyramidale. Elle était naturelle pour lui. Et ce n'est que maintenant, dans les derniers écrits, que ça y est, il a abandonné cette vision pyramidale et qu'il est passé sur la vision de l'arborescence. Et là, il arrive beaucoup mieux à théoriser ce qu'il a vu. Hein, il a fait le changement. Mais beaucoup d'éthologues ont du mal à faire ce changement parce qu'ils ne le pensent pas. Et donc, ils tâtonnent beaucoup. Et on voit très bien comment tous les débats actuels ou qui ont eu lieu depuis 20-30 ans, par exemple sur la notion de culture animale, il y a eu de très gros débats entre éthologues sur la notion de culture animale. Ben, ceux qui étaient opposés, on voyait très bien qu'ils définissaient la culture à la manière humaine. Et pour terminer, j'ai eu un exemple comme ça l'an dernier en juin. J'ai organisé une journée d'études sur les médecines des animaux sont-elles bonnes pour les hommes ? Et on a eu une spécialiste des chimpanzés, une vétérinaire de formation, maintenant écologue, qui nous a expliqué qu'il n'y a pas de médecine chez les animaux. Mais c'était très intéressant de voir que sa définition de la médecine, c'était une définition occidentale, actuelle, XXe siècle, ça ne serait pas la définition de la médecine du Moyen-Âge, et une définition sociale, c'est-à-dire que la médecine, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soigne quelqu'un d'autre. C'est une définition très particulière et très humaine de la médecine. Alors évidemment, avec ça, elle pouvait dire qu'il n'y a pas de médecine chez les chimpanzés, il n'y a que de l'automédication. Et puis il y a une collègue ethnologue qui lui a dit « Oui, mais dans les populations d'Afrique que j'étudie, eh bien la médecine, elle se définit par se soigner par les plantes, se soigner en mangeant. C'est ça la médecine. » Eh bien la définition de ces populations-là, elle s'accorde très bien avec les chimpanzés. Les chimpanzés, ils font la même chose, ils se soignent en mangeant. Et dans beaucoup de provinces occidentales et de paysanneries occidentales, on a fait ça jusqu'à peu. Donc on voit bien comment, en fonction du concept et de la définition qu'on lui donne, on ne va pas avoir les mêmes conclusions et on ne va pas regarder les animaux de la même manière. Voilà, je pense que là, je dois avoir largement... Je vous remercie.